Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciate, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons en ce vendredi 18 décembre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, c'est le dernier rendez-vous de l'année 2015. Le prochain, ce sera en janvier, après les fêtes. Et pour cette dernière émission, eh bien, je reçois Jacques Lavergne. Bonjour Jacques.
Bonjour Claire.
Alors avec Jacques, nous allons vous présenter un excellent roman policier que j'ai beaucoup aimé, Noël au charbon, Pâques au violon, publié aux éditions Mare Nostrum. Mais comme à l'accoutumée, votre page info. Pour vous signaler, samedi 17 décembre à 15h à la librairie Gibert-Joseph au rayon Jeunesse, 3 rue du Thor à Toulouse, une rencontre avec Héloïse Scherer, illustratrice, autour de son album La Bulle, écrit par Timothée de Fombelle et paru aux éditions Gallimard Jeunesse. L'entrée est libre et pour tout renseignement, le 05 61 11 17 77. Et puis la seconde et dernière info, mardi 22 décembre, donc pendant les vacances de Noël, de 10h à midi et de 14h30 à 16h30, à la bibliothèque municipale de Saint-Aurens, à l'espace Altigone, place Jean Bellière à Saint-Aurens, un atelier créatif autour de livres carrousel, animé par Michael Jourdan, qui est le prix découverte du festival bande dessinée de Colomiers 2014. C'est un atelier pour les enfants à partir de 7 ans qui est gratuit, mais il est nécessaire de s'inscrire pour une raison de place dans la salle, donc au 05 61 39 27 39.
Page à page, Claire Ambille.
Merci à Stéphane pour la technique de cette émission. Alors, je reviens vers toi, Jacques. Donc, justement, à Radio Occitanie, le lundi matin de 11h à midi, tu es en direct dans ton émission.
Et oui, voilà, l'émission Cap à Cap que je te dois, Claire, parce que c'est en venant présenter mes livres que l'envie de faire de la radio et l'idée de l'émission m'est venue.
Bon,
donc tu es la marraine de l'émission,
bon,
comme tu le sais.
J'en suis ravie. Et donc cette émission, alors j'ai entendu dire que ce lundi-là qui vient de passer, il y avait les Gypsy Kings dans ce studio.
Voilà, oui, on a joué, on a plus joué qu'on a parlé, parce que les Gypsy Kings, c'est genre un peu taiseux, sont des gitans, ils n'ont pas l'habitude trop de s'exprimer.
Ils s'expriment en musique, tout à fait. Donc ça devait être une émission riche en musique.
Oui, c'était la première musicale. C'est un peu difficile pour moi parce que j'ai plus l'habitude des gens qui parlent que des gens qui jouent, mais je pense qu'on y est arrivé quand même.
Bon, et donc lundi prochain, là, tu y seras le 21 décembre.
Oui, je serai à ce donc, micro à et on recevra... on recevra un monsieur qui a un métier, qui est un ancien tagueur d'ailleurs, ça va être assez original, et qui est devenu graffeur, m'a-t-il dit. Alors, ça va être la version noble du tagueur. C'est un graffeur qui a une très belle société aujourd'hui et qui est sollicité un peu partout en France et même en Europe pour des décors. Donc je pense que c'est le tagueur qui est arrivé.
D'accord, mais ça va être intéressant. Mais alors, il va falloir décrire alors ce qu'il fait au niveau.
Je lui laisserai faire.
Oui. ça va être tout un art, parce que décrire à la radio les choses visuelles, c'est des fois pas toujours facile.
Non.
Moi, je me rends compte quand j'invite des illustrateurs ou des illustratrices d'albums jeunesse, c'est pas toujours évident à expliquer ce qu'il y a dans les images.
J'ai reçu une jeune femme peintre. Effectivement, ça a été assez compliqué.
Et voilà. Mais en tout cas, si vous voulez écouter Jacques, c'est le lundi de 11h à midi, et donc la dernière de l'année 2015, c'est ce lundi, le 21 décembre. Alors ensuite, tu écris aussi des romans policiers, donc le premier, on peut le citer, c'était « Peinture au pistolet acéré ».
Tout à fait.
Ensuite, le second, c'était « Barcelone à l'Essimple ».
Voilà.
Et puis, tous les deux, donc, publiés aux éditions Mare Nostrum. Et puis là, tu reviens à page avec le troisième, qui s'intitule donc « Noël au charbon, Pâques au violon, toujours aux éditions Mare Nostrum. Et puis je précise aux auditeurs que le titre prend tout son sens à la lecture du roman policier. Hein, voilà, donc on comprend le titre parce qu'il y a un sens, hein, forcément. Et d'ailleurs, ce roman policier là, celui-ci, est dédié à des personnes précises.
Il est dédié d'abord à deux personnes qui s'appellent Caroline et Tonio, qui m'ont fait découvrir leur pays, qui est un peu le pays des fenouillèdes. Donc là, on se resitue en pays catalan. Hein. N'oublions pas
que on a quitté Barcelone pour le second.
On est venu un peu au nord, en pays catalan, à côté de Perpignan d'ailleurs, hein, pas très loin, dans un très beau pays à la limite de la Catalogne. Et donc je l'ai dédié à ces deux personnes qui m'ont fait connaître leur pays, mais surtout, je l'ai dédié à des policiers, enfin pas des policiers d'ailleurs, s'ils m'entendaient, à des gendarmes.
Des gendarmes, hein, oui.
Puisque je l'ai dédié à la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse. Section de recherche qui est à la gendarmerie, ce que la police judiciaire est à la police nationale. Donc des enquêteurs avec qui j'ai eu l'occasion de travailler un peu, de me rendre chez eux et de regarder, voir certains dossiers, dont un qui m'a intéressé, qui m'a permis de lancer cette
aventure. On va le découvrir. Voilà. Donc voilà, ce livre et ce roman policier est dédié donc à la section de recherche de gendarmerie nationale.
Voilà, la gendarmerie de Toulouse qui couvre toutes les Pyrénées.
Alors, on retrouve dans ce roman, on retrouve Pierre Pagès, le conservateur du musée d'art moderne de Céret, qui était présent dans le premier et dans le second.
Mais dans le second aussi, oui.
Voilà. Alors, cette fois-ci, ça se passe, comme tu le disais, dans les Fenouillèdes, et même dans un pays beaucoup plus lointain, à Tbilissi, dans la capitale géorgienne. Hein. On voyage beaucoup dans ce roman également.
Oui, on va un peu loin cette fois-ci, mais bon, c'est vrai que c'est un livre qui traite des mafias russophones, dont les Géorgiens sont quand même d'excellents représentants, ce qui fait que ça nous amène dans le livre à aller nous balader un peu à Tbilissi. Bon, une balade agitée, comme toujours.
Mais... Ah bah oui, plein de rebondissements, oui, plein de suspense. Alors justement, l'histoire, venons-en à l'histoire que nous allons dérouler un petit peu ensemble, mais voilà, de façon succincte, avec pas trop de détails, pour laisser le suspense à nos auditeurs et futurs lecteurs. Alors justement, donc, Pierre Pagès avait fait connaissance dans la seconde enquête avec un prêtre Nafaou, le prêtre
Nafaou. Oui, c'était même dans la première. Nafaou Issabaou, un prêtre...
C'était la première enquête.
C'était le curé de Céret dans ma première enquête.
Oui, voilà, c'est ça.
Un prêtre noir, j'aime beaucoup les prêtres noirs.
Ah ben oui. Mais d'ailleurs, il est fort sympathique, celui-ci. Et donc, justement, ce prêtre, eh bien, qui est devenu ami avec Pierre Pagès, l'invite à venir passer quelques jours à Montalba. Alors, c'est un joli petit village qui donne envie d'aller dans ce petit village. Alors, l'hiver, il vaut mieux prévoir.
L'hiver, il fait froid. C'est un pays de vent, au pied du Canigou. Enfin, au pied,
Le vent, il faut...
C'est le plein hiver. C'est le cœur de l'hiver. Il fait froid, il y a de la neige. Il y a beaucoup de vent là-bas, ce vent qui vous coupe en deux.
Alors, au départ, en fait, il y a déjà un mort, ou une morte plus exactement, qu'on retrouve dans la neige, justement, dans ce village de Montalba. C'est une vieille femme, en fait, c'est une ancienne sans domicile fixe des villes, et qui a échoué dans ce village il y a quelques années, Mathilde. Et donc, on la retrouve morte dans la neige un jour. Et puis, donc, c'est là que le prêtre Nafaou invite Pierre Pagès à passer quelques jours avec lui pour, dit-il, profiter des petites cellules grises de Pierre Pagès, alias Hercule Poirot, Pierre Pagès aime mener les enquêtes.
Voilà, c'est ce que disait Agatha Christie. Enfin, faisait dire à Hercule Poirot les fameuses petites cellules grises.
Voilà, parce que en plus de cette morte assassinée, il y a eu une disparition, la disparition d'un vieux chasseur du village. Donc, ça fait beaucoup de choses un petit peu bizarres qui se passent à Montalba. Et donc, le prêtre a besoin des cellules grises de Pierre Pagès pour cette enquête. Alors justement, il y a aussi, c'est ce qui est amusant, c'est aussi la différence entre le prêtre et Pierre, parce qu'il faut savoir que Pierre est un athée convaincu.
On peut le dire comme ça, oui.
Voilà. et que bah, forcément le prêtre lui est un
croyant
convaincu.
Il paraît qu'ils le sont pas tous, mais celui-là l'est.
Donc. Ah, il est très convaincu et convaincant, hein, parce qu'il essaye vraiment de d'amener Pierre à un peu une ouverture.
Il est en terre de mission, il essaye toujours.
Oui, il essaye. Alors il y a une agression, l'agression du prêtre justement que Pierre retrouve accroché aux cloches de son église. Ça c'est violent quand même.
Oui, un peu. Oui.
Oui. J'ai trouvé que ce prêtre accroché aux cloches de l'église, c'était.
Oui, ça permet de les faire sonner.
Oui, c'est sûr, elles sonnaient sans discontinuer.
Voilà.
Pour le coup. Alors, trêve de plaisanterie, voilà. Et puis le secret de la confession aussi, parce que alors le prêtre donc a.
Et oui, le prêtre sait des choses.
Est soumis au secret de la confession. Alors c'est là où Pierre a bien du mal à concevoir ce secret de la confession.
Ah oui, en bonne athée, le secret de la confession arrivait à un certain niveau de risque.
Il
a du mal à le concevoir.
C'est vrai. Tout à fait. Alors ensuite, il se passe un événement capital aussi, puisqu'il y a justement dans les gorges de Galamus, il y a une grotte, un ermitage en fait.
Un vieil ermitage, oui, la grotte de Galamus qui sont un peu au nord de Montalbal-Château, de Bélestat à la frontière, dans des gorges absolument superbes, extrêmement sauvages, et il y a là un ermitage d'ailleurs, où le dernier ermite, je pense, est enterré dans l'ermitage, et surtout parce qu'il est mort de froid, donc c'est vous dire quand même qu'à hiver, on s'y pèle un peu.
D'ailleurs, quand tu décris l'ascension que le prêtre, et puis Pierre, et puis tous les fidèles qui vont venir assister à la fameuse messe de minuit dans cette grotte, ça donne, faut vraiment être motivé pour monter là-haut.
Il y a encore des catholiques motivés, oui.
Oui.
Hein, la messe de minuit, c'est pas celle d'Alphonse Daudet, là, c'est pas tout à fait pareil, mais.
Oui, mais. Et donc, eh bien, il se passe un événement tout à fait extraordinaire, parce qu'à la fin de la messe de minuit, eh bien, le prêtre, Nafaou, est enlevé par des inconnus armés, sous les yeux de ses fidèles et de Pierre, qui essayent de s'interposer avec courage, mais sans succès. Il est même blessé. Mm-hmm. Et voilà, donc, disparition totale du prêtre sous les yeux, donc, de tous ces fidèles venus assister à la messe de minuit.
Voilà.
Ça, c'est fort aussi, quand même.
Un événement,
hein.
Oui, dans les gorges de Galamus.
En plus, dans un cadre complètement...
C'est une gueule infernale, soyons clairs.
Et d'ailleurs, je cite, il est noté, « Ou comment une messe de minuit dans les gorges de Galamus se transforme en western ?» c'est tout à fait ça. Hein. Ça tire de tous les côtés, c'est vraiment...
C'est agité, oui.
Oui, c'est agité. Alors, c'est là que l'on découvre, les Vorif Zakon, alors mot à mot, ce sont les voleurs dans la loi.
Dans la loi, oui.
Voilà, ce sont eux. En fait, c'est une confrérie criminelle géorgienne, chapeautée par la mafia russe et qui sévit en Europe.
Oui, c'est un peu ça, puisqu'aujourd'hui...
Je schématise, mais en gros, c'est ça.
Oui, il y a un pourcentage très très élevé de vols qui se passent, et notamment dans notre région, mais toute la France en est affectée, et qui sont le fait des mafias russophones et dans lesquelles les Géorgiens sont tout à fait en pointe, on peut dire. Hein. Ils se sont fait une spécialité dans le cambriolage.
En tout genre d'ailleurs, parce qu'à un moment on va retrouver dans la grotte du matériel volé, c'est assez insolite ce qu'on retrouve.
Oui,
hein. Ils volent tout.
Vous
mais même des choses.
À Toulouse, nous avons une partie du périphérique qui est totalement sans lumière aujourd'hui, tout simplement parce que ces mêmes gens que je décris dans ce livre ont tiré les câbles d'alimentation. Et donc, si vous roulez dans le noir, c'est parce que justement, ces mafias russophones.
C'est à cause d'eux.
Voilà. On piqué, tout simplement. Mais après, ils enlèvent tout. Dans la région de Perpignan, à une époque, c'était les plaques d'égout. Cimetières du nord, notamment de la région lilloise, c'était tout ce qui était dans le funéraire et autres. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui atteint la campagne aussi, puisqu'il y a des engins agricoles. Enfin, tout ce qui peut se voler disparaît, est emporté.
Puis là, dans les fenouillèdes, c'est une région où au moins ils sont tranquilles. Finalement, ils passent un peu inaperçus.
Oui, alors cette histoire qui a trouvé son origine dans un dossier que j'avais...
Donc c'est une histoire vraie,
on m'avait parlé.
Les Vorif Zakon, ils existent.
Oui, ils existent, c'est connu aujourd'hui, il y a d'excellents... journaliste, je crois qu'il s'appelle Pierra, un des journalistes du Point, mais qui écrit aussi ailleurs et qui a un excellent blog qui en parle très savamment. Je le cite d'ailleurs dans le livre. Ce sont des gens qui existent et ce sont des gens qui ont la particularité d'être extrêmement structurés. C'est-à-dire qu'il y a, c'est une véritable armée avec des méthodes quasiment militaires. Il y a des officiers généraux, il y a des officiers subalternes.
Ouais, il y a des pions, il y a les chasseurs qui, voilà, les chasseurs par exemple,
qui vont aller au feu et qui vont se mouiller à tous les sens du terme, parce qu'ici on en a trouvé en plein hiver en train de pour échapper justement aux gendarmes avec qui j'étais, de franchir la rivière Lers. Je peux vous dire qu'il faisait un froid coupé au couteau, je savais plus où me mettre, et eux, ils ont
remarquez,
pas eu peine.
Ils viennent de contrées où il fait froid, oui, ils sont habitués au froid.
Ils viennent du froid, mais oui, du froid, on leur fait faire un certain nombre de choses que je pense beaucoup de Français ne feraient pas, et qu'ils acceptent de faire, et pour des rémunérations, au moins pour ce qui est la base, extrêmement modeste.
Oui, puis les grands qu'on ne voit pas, forcément, ne se mouillent pas, lui.
Non, ils ne se mouillent pas, ils sont dans leur pays, en Russie, ils sont en Géorgie, et souvent, ils participent un peu au pouvoir politique.
Tout à fait. Donc on découvre tout ça dans ce livre. Et alors l'inquiétude, pour revenir à notre histoire, donc l'inquiétude est grandissante chez Pierre, parce qu'il se demande comment il va faire pour retrouver le prêtre Nafaou, et surtout, est-ce qu'il est encore vivant ? Parce que face à des individus sans scrupules, on peut se poser la question. Puis j'aime beaucoup aussi les réflexions que se fait Pierre sur, par exemple, l'histoire et les colonisations.
Il en fait quelques-unes, oui.
Voilà, il a des réflexions comme ça. Et puis on découvre aussi j'ai beaucoup aimé un lieu naturel magnifique, les demoiselles coiffées. Oui. Pourtant lors d'une découverte macabre, mais d'ailleurs il dit beauté et violence, mais.
Ben ça c'est à Isle-sur-Tête.
Les demoiselles coiffées.
C'est des concrétions qui ont été taillées par le vent et qui franchement méritent le détour, comme toute cette région. Hein.
Ah oui, vraiment, ça donne vraiment envie d'y aller.
J'espère que les lecteurs vont aller arpenter le terrain après.
Et on va se rappeler de ce roman, voilà, en allant arpenter. Peut-être au printemps, ça doit être sympathique, peut-être.
Ah,
aussi,
c'est sympa toutes les régions,
voilà.
Mais vous savez, c'est très doux encore, il y fait très bon. J'étais à Perpignan encore il y a deux jours.
Il faut dire que là, on a aussi un hiver, un début d'hiver assez clément. Alors, on assiste au Noël des enfants géorgiens, justement, qui vivent à Montalba, parce que, dans le presbytère, parce que, eh bien, Pierre a décidé de faire le Noël qu'avait prévu de faire le prêtre, et malgré son absence. Et puis, on a aussi, j'aime bien aussi ce que dit Pierre. Là, pour lui, la justice et la religion sont à mettre dans le même panier. Et il dit d'ailleurs, le clergé est là, mais Dieu. Point d'interrogation. Et il a des idées, j'aime aussi les idées qu'il véhicule, Pierre, sur la justice, parce qu'il y a beaucoup d'allusions dans ton livre, Jacques, sur le manque de moyens de la police, justement.
Et de la justice.
Sur la justice et sa lenteur, d'ailleurs un sujet que tu connais
Oui,
bien.
Dont je parle assez souvent au micro le lundi dans mon éditorial.
La belle endormie.
Voilà, je reviens sur ces thèmes.
Voilà, qui est par manque de moyens et par une routine désespérante, voire désabusée, je cite là encore. Donc il y a plein d'allusions comme ça dans ce roman policier. Il y a l'enquête, mais il y a aussi plein de choses qui font réfléchir, qui amènent à une certaine réflexion.
C'est un peu le principe du roman policier. Oui. C'est aussi une manière de jeter un œil sur la société, même modestement, mais
c'est très intéressant de passer un certain nombre
de messages.
Tout à fait, voilà, sur notre monde actuel et ses travers. Alors, on découvre aussi Eous, un petit village. Moi, ça m'a donné envie aussi d'y aller. Et la vallée de Conflans. Et la fondation, je ne savais pas du tout, et la fondation à la mémoire de Boris Vian.
Oui.
J'ignorais totalement ce...
Boris Vian a vécu à Eous, et je pense que son épouse, je crois qu'elle a conservé assez longtemps une maison. Elle doit
plus la
voir
aujourd'hui.
À la fin de sa vie, oui.
Elle
avait une maison là-bas. Donc Eous, qui est un superbe village médiéval, tout en hauteur, à flanc de colline.
C'est vraiment agréable.
Je ne suis pas appointé par l'office du tourisme du Roussillon, je vous rassure quand même.
Non, c'est du vécu, parce que tu aimes bien.
Je parle de pays que j'ai trouvé beau, que j'aime bien.
Voilà, tu aimes cette région, et voilà, tout à fait. Alors, à un moment, Pierre décide de faire cavaler seul, c'est-à-dire sans les gendarmes, et il retrouve, pour retrouver Nafaou, et le ramener à Micheline. Ah bah oui, Micheline, c'est un personnage,
Micheline,
ça aussi.
La bonne du curé.
Voilà, la bonne du curé. Tout à fait.
C'est pas celle d'Annie Cordy, mais c'est la bonne du curé.
Presque, ouais. Alors, l'heure, d'ailleurs, je cite, l'heure était celle des guerriers, pas des diplomates. Voilà, là on passe à la vitesse supérieure.
On pourra peut-être rappeler un peu les tontons flingueurs quelque part.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et c'est là qu'il y a l'allusion aussi donc au manque d'effectifs dans la police pour tout mener à bien. Donc voilà, la réflexion aussi sur les moyens qu'on donne à nos policiers, à la sécurité actuelle aussi dans le monde à notre époque. Alors on retrouve aussi Vivica, la mezzo-soprano qu'on avait rencontrée lors de la deuxième enquête, Barcelone à les simples, et qui est devenue la tendre amie de Pierre.
Et oui, oui, ah, Pierre aime bien les jolies femmes.
Ah ben voilà. Ah. Voilà. Et ils s'envolent donc tous les deux pour cette fameuse capitale géorgienne à Tbilissi.
Tbilissi, oui.
Alors là, on goûte avec eux les fameux raviolis à la géorgienne, qui sont, paraît-il...
Ah, somptueux, oui. Je n'en ai jamais mangé, comme ça. Je dois la vérité de dire que je n'en ai que oui parlé.
Bon, et le tcha-tcha aussi.
Oui,
hein.
Oui, il y a beaucoup de choses...
Alors il s'y passe, évidemment, on ne va pas tout raconter, mais à Tbilissi, il se passe beaucoup de choses, des rebondissements, des mésaventures dans cette jolie capitale où les gens ont l'air d'être très accueillants, enfin sauf certains évidemment, mais, oui. Mais sinon le peuple est accueillant.
Oui, ce sont
le
des peuple gens, géorgien, les Géorgiens sont des gens effectivement attachants, accueillants, qui ont cette espèce de cancer mafieux, ils ne sont pas les seuls à l'avoir, hein. Mais véritablement là-bas ça prend des proportions assez gigantesques.
Ouais, ça gangrène.
Oui, ils ont gangréné même
vie,
les partis politiques, et il faut savoir que tout le produit de ces vols alimente les circuits politiques, et donc c'est assez dramatique parce que ça veut dire que la corruption est complètement généralisée.
Oui, elle est partout. Et les gens sont obligés de vivre au rythme de tout ça.
Ils n'ont pas le choix. J'espère pour eux qu'ils s'en débarrasseront un jour, mais pour l'instant c'est pas le cas.
On leur souhaite. Et donc ils vont quitter, Pierre et Vivica vont quitter Tbilissi, où Vivica d'ailleurs a réussi à chanter quand même.
On n'est pas mezzo-soprano pour rien. Donc, quand on va,
Même assisté à un opéra dans le fameux théâtre de la capitale géorgienne.
Superbe théâtre.
Et puis alors ensuite, on va découvrir un village qui m'a bien plu aussi. Alors, je vais te demander d'ailleurs si la légende est vraie. Donc, c'est un village où Noé aurait amarré son arche au piton rocheux qui domine le village.
Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est un village qui est sur un des versants d'une gorge qui est dominé par un énorme piton. Et la légende veut que Noé aurait amarré l'arche.
Ça fait rêver.
Ça nous ramène très loin.
Oui, tout
bon,
à fait.
Mais bon, effectivement, oui, ce village existe, il existe. La route s'arrête là, d'ailleurs.
On ne va pas plus loin.
On ne va pas plus loin. Et après, c'est un village très, très mystérieux, parce qu'un peu plus loin, il y a un village englouti. Il y a eu des glissements de terrain qui ont englouti un village. Enfin, on aurait pu développer à l'infini ce genre de...
Mais moi,
de
ce que j'aime bien dans ton roman, c'est que il y a plein de descriptions. Il y a l'enquête, bien sûr. Il y a le côté humain avec les personnages. Et puis, il y a tout le côté aussi lieu. J'aime beaucoup, parce qu'on voyage, on ne reste pas statique.
C'est pas vraiment figé. Celui-là, on bouge beaucoup.
Oui. Alors, je n'en dirai pas plus pour laisser aux auditeurs le suspense de la fin de ce roman. Pierre va-t-il retrouver Nafaou ? Et puis, c'est aussi une belle idée de cadeau de Noël aux inconditionnels de romans policiers, comme Mathieu, par exemple, s'il nous écoute. Alors, comme je disais, des lieux qui donnent envie d'y aller, et donc, pour la plupart, que tu connais, donc, Jacques,
voilà,
les Fenouillèdes...
En particulier.
Un sujet que tu maîtrises aussi, puisque comme tu nous l'as dit, ça part d'une histoire vraie, les Vori Vzakon, les voleurs dans la loi, donc avec l'aide de la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse.
Qui a fait une très très belle enquête d'ailleurs, qui a eu des répercussions jusqu'à Tbilissi. Hein, dans le parlement de Tbilissi, on se brandissait d'une travée à l'autre et d'un parti à l'autre des PV de gendarmerie qui ont été officiels. On pouvait le voir sur Internet, c'était assez saisissant, engrossissant. On voyait les PV de la gendarmerie, de la section de recherche de Toulouse, de Midi-Pyrénées.
Ah ouais, c'est plutôt flatteur entre guillemets.
Oui, tout à fait.
C'est et puis donc de la recherche dans les dossiers. Enfin un travail.
L'histoire, l'articulation historique, si je puis dire, est exacte. Oui.
tout à fait. Voilà.
Là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, je l'ai habillé à ma façon. Et
oui, comme, oui, hein, oui, donc, mais...
Dans des lieux qui me plaisaient, parce que le départ de l'histoire est un peu similaire à celle du livre, de la vraie histoire, du vrai dossier. Ça démarre en Ariège, au fin fond de l'Ariège. Donc, on n'est pas si loin que ça
oui,
des Fenouillèdes.
Oui, des Fenouillèdes, hein, tout à fait. Donc, alors, la question, Jacques... Il y a-t-il une nouvelle enquête de Pierre Pagès en cours d'écriture?
Voilà, j'ai quelque chose sur le feu, effectivement, puisque j'ai démarré une enquête qui va se passer totalement à Venise.
Oh,
donc,
magnifique.
On va revoyager un peu.
La ville des amoureux.
Voilà, oui, il y aura des amours peut-être un peu violentes, hein, mais... Effectivement, on va se placer dans des choses qui sont très actuelles aujourd'hui et on va tourner certainement autour de l'immigration et d'autres sujets.
Ah oui, donc un sujet oui actuel. Voilà. Oui, tu aimes bien traiter les sujets.
Oui, parce que c'est quand même actuel, la vie, hein,
oui,
c'est
oui,
des
oui,
sujets actuels. Et puis Venise,
c'est notre monde actuel.
Venise est une ville extrêmement intéressante qui est en train de se transformer, on va dire un peu malheureusement, en ville musée, comme d'ailleurs le devient Barcelone, hein, qui
oui.
est tout entière tournée autour de Gaudi et de deux ou trois autres artistes. Mais il n'y a pas que ça à Venise. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui travaillent à Venise encore.
Ouais. Et là, tu connais. Tu y as été, là c'est une
oui,
ville où tu
à
as
Venise,
déjà été.
Venise, je oui. connais très bien et j'ai même vécu.
Donc prochainement, là, donc, en 2016,
il faut que j'écris, il faut que je travaille, comme c'est pas
oui,
mon
bon.
Seul métier, on va avancer, mais je pense
oui.
qu'en 2016 et peut-être à cette époque-ci...
Bon, tu reviendras,
voilà,
tu reviendras
plaisir.
Page
si je
à
suis
page.
Invité, je
ah
reviendrai
oui,
te
bah,
voir.
Claire. Avec grand plaisir, tu sais que tu es le bienvenu, Jacques, à Page à Page.
Merci Claire.
Et on te verra à Ombre Blanche le 16 janvier, mais je le redirai en temps et en heure, le 16 janvier, donc à la librairie Ombre Blanche,
voilà.
où tu présenteras donc
ce livre
roman,
de 11h à 13h dans l'espace dédié aux présentations.
Voilà.
Qui n'est pas situé dans la librairie, mais juste à côté.
À côté. Et puis le dimanche 17 janvier, tu seras au Salon du Livre de Montgiscard pour le présenter
et
également.
Voilà. Puisqu'ils m'ont gentiment invité. C'est
un
salon extrêmement agréable où il y a beaucoup de monde,
convivial.
On rencontre beaucoup de lecteurs. Il y a des livres de qualité. Alors, je ne parle pas du mien, mais évidemment,
c'est
mais il y a
convivial.
Des livres de qualité.
Oui, 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 moi j'y vais chaque année. Et
c'est un excellent moment.
Je viendrai te faire un petit coucou et j'invite les auditeurs à aller aussi à ce Salon du Livre, mais je le redirai aussi en temps et en heure en janvier. Alors merci Jacques pour ta présence à Page à Page et pour ce roman policier donc captivant, je rappelle le titre, Noël au charbon, Pâques au violon, paru aux éditions Mare Nostrum, donc un roman plein d'humour avec des allusions très pertinentes sur notre monde actuel et ses travers aussi, des lieux joliment décrits qui donnent envie d'aller les visiter, des personnages sympathiques pour la plupart, tout du moins, des rebondissements, du suspense, donc n'hésitez pas à acquérir ce roman policier pour Noël et pour après Noël, pour quand vous voulez. Alors, on se retrouve, nous, le vendredi 15 janvier à 14h30 sur Radio Occitanie et je recevrai Nicole Hurstel-Zimmermann et Maryse Crémieux-Hurstel qui viendront nous présenter « Journal d'une adolescente juive sous l'occupation » paru aux éditions Priva, un beau travail de mémoire puisqu'il s'agit du journal tenu et écrit par Maryse, justement, qui sera normalement présente à cette émission et pendant donc sous l'occupation. Occupation, bien sûr, et donc relaté, enfin un petit peu mis en écriture et en lumière par sa belle-fille Nicole Hurstel-Zimmermann, qui est déjà venue à Page pour présenter d'autres ouvrages, puisqu'elle écrit, après avoir été journaliste à France 3, je crois, d'ailleurs. Donc voilà, donc un rendez-vous qui va être assez porteur de mémoire, déjà, et puis un beau rendez-vous. Donc ça sera le vendredi 15 janvier à 14h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Alors en attendant, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, et puis de belles lectures, et surtout, offrez-vous des livres. La lecture, c'est important, et puis ça fait voyager.
Voilà, on est dans son fauteuil, bord de la cheminée en hiver et le chat sur les genoux, on est à l'autre bout du monde.
On est à Tbilissi,
voilà,
la capitale géorgienne, comme avec ce roman.
Qui bouillonne.
Tout à fait, tout à fait. Merci Jacques et à Adisiats.
Merci Claire.